Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous m'excuserez un peu, je suis un tout petit peu enroué, mais j'espère que cela ira tout de même. D'abord, merci d'être venu. Évidemment, c'est bien, Guillaume, vous avez raison de le souligner, d'avoir 300 personnes ici. On va dire que par rapport à Dormesson, on joue quand même un peu à domicile. Et j'ai vu, pour être allé hier à Madrid, que lorsqu'on joue chez l'adversaire, c'est quand même moins facile que lorsque l'on joue à la maison et qu'il y a plus de difficultés à faire triompher son jeu, sa pensée ou son style. Bien, mesdames et messieurs, pour moi, ce livre est important. D'abord parce qu'il se situe à un moment important. Je crois que nous allons avoir l'année prochaine, en 2012, une échéance qui va être une échéance, à mon avis, tout à fait décisive pour la France et les Français. Et donc, quelques temps avant, un peu en amont, au moment où encore le débat d'idées peut exister, on n'est pas simplement en affrontement politique, je souhaitais présenter quelques-unes des choses auxquelles je crois. Pourquoi et si la France s'éveillait? Bien évidemment, vous y voyez un clin d'œil au livre de Perfit, Quand la Chine s'éveillera. J'aurais pu l'appeler comme ça, mais le titre était déjà pris, donc on l'a appelé Et si la France s'éveillait? Qu'est-ce que veut dire ce titre? Il me semble que le débat politique français, politique au sens large, économique, social, chez nous se déroule un peu comme si nous vivions en monde clos et nous ne prêtons pas assez attention à ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières. Et du coup, on a tendance à reproduire des schémas de pensée dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine politique, qui datent d'il y a 30 ou 40 ans et qui, à mon avis, ne sont plus en phase avec la société actuelle. La première chose donc que je souligne dans ce livre, c'est par rapport à la politique qui est menée actuellement par le président de la République. Donc le premier chapitre lui est consacré. Vous verrez que j'essaye de faire une analyse critique de l'action qu'il mène, non pas dans la petite phrase, mais dans l'analyse de fond. Et je lui dis finalement ce que j'ai à lui reprocher de plus fondamental. C'est ce que j'appelle la tentation hexagonale. C'est-à-dire de mener une politique comme si tout se faisait à partir de la France. Comme si c'était la France qui décidait de tout, sans voir qu'effectivement le monde est complexe et que le rôle de la France s'est quand même, depuis un certain nombre d'années, singulièrement réduit. On en a vu un exemple encore sur un plan récent. Lorsqu'il y a un conseil des ministres européens qui doit parler de ce qu'on va faire vis-à-vis de la Libye et que la veille, le président de la République, tout seul, engage la France et dit ben « voilà ce qu'il faut faire ». Tant que l'on procédera comme ça, à mon avis, on n'avancera pas parce qu'un certain nombre de nos idées, même si elles sont bonnes, eh bien finalement se heurteront à l'incompréhension des autres pays. Vous voyez, par exemple, dans mon livre, j'analyse l'échec du sommet de la réunion de Copenhague. Copenhague, c'était évidemment une très bonne position que d'essayer de faire de notre pays, de l'Europe, un pays en pointe sur les problèmes du développement durable. Mais au lieu de le faire avec les autres pays européens, on essaye de le faire tout seul. Et par exemple, Jean-Louis Borloo va faire une tournée africaine où, par le temps passé, le beau temps, on se dit, ben voilà, on va avoir, comme la France est assez implantée en Afrique, on va prendre tous les chefs d'État, on va les faire voter, et à partir de là, puisqu'on réussit à avoir derrière nous le continent africain, eh ben on va réussir à faire triompher nos positions. Et ça marche pas comme ça, et c'est un échec total, parce qu'à un moment donné, eh bien, d'une part Obama, d'autre part le président chinois, et ensuite le président brésilien, Lula, disent, ben nous, excusez-nous, on n'est pas devant des déclarations qui sont préparées d'avance, puisque c'est comme cela, nous, on dit non. Donc, tentation hexagonale de Nicolas Sarkozy, mais tentation qui me semble être quelquefois, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, partagée par la gauche. Moi, je suis un homme de gauche, bien évidemment, mais je pense que la gauche, c'est forcément le mouvement, l'inventivité, l'innovation, la création, et que la gauche, ça ne peut pas être la défense des positions acquises, parce que si l'on n'est que la défense des positions acquises, eh bien, à ce moment-là, on régresse, on représente le passé. Et par exemple, sur cette tentation hexagonale, je pense que la gauche la partage un peu, pour des raisons de la gauche française en particulier, pour des raisons de culture, parce que la gauche française a été marquée par une tradition, une grande tradition dans notre pays, qui est la tradition marxiste, mais qui considère que c'est à l'État de résoudre tous les problèmes. Et donc, dans la conception de la grande majorité de la gauche française, il faut effectivement prendre le pouvoir d'État. Alors, dans la version communiste, c'est par la révolution. Dans la version socialiste, c'est par les élections. Et puis, il y a un avant où on ne peut rien faire. Puis un après où on est au pouvoir et on fait tout. Et ça ne marche pas exactement comme ça. Il y a une autre tradition, une tradition qui est en particulier extrêmement présente à Lyon, qui pensait que l'on pouvait faire bouger la société même avant la conquête du pouvoir d'État et qu'il fallait continuer à faire bouger la société civile après la conquête du pouvoir d'État et que tout ne se résolvait pas au niveau du gouvernement. Cette tradition, c'était, je fais un tout petit peu d'histoire, des socialistes utopiques qui ont profondément marqué l'histoire de notre agglomération. C'était d'abord des socialistes saint-simoniens qui croyaient que le progrès passait par une tradition, par une innovation économique, industrielle, et donc qu'il fallait créer pour pouvoir ensuite répartir les richesses, ce qui semble être le béaba, mais qui est quelquefois un peu oublié, que évidemment, si on ne crée pas de richesses, on ne peut pas les distribuer. Et donc, dans cette tradition, il y eut les gens qui créèrent les chemins de fer, par exemple, Paris-Lyon-Marseille fut créé par des Saint-Simoniens. Le Crédit Lyonnais, que vous connaissez, fut créé à Lyon par des Saint-Simoniens qui pensaient que, voilà, il fallait créer une banque qui soit une banque populaire à l'époque, qui s'appuierait sur les canuts, sur ceux qui étaient ouvriers, salariés dans l'agglomération lyonnaise, et que c'était cette voie-là qu'il fallait pouvoir explorer. De la même manière, deux autres penseurs intéressants, Fourier. Fourier qui a aussi beaucoup influencé l'esprit lyonnais. Fourier disait quoi ? C'était le père des coopératives et des mutuelles. Il disait, unissons-nous. Et c'est le vrai mot, la vraie étymologie, je le dis dans mon livre, du mot socialisme. Socialisme, ça vient d'un mot latin qui est socius et qui veut dire associé. Et donc, pour lui, le socialiste, c'était des gens qui s'associent librement pour essayer d'inventer l'avenir ensemble. Et ça a donné lieu dans cette ville à la tradition des canuts, des travailleurs indépendants, comme vous le savez, qui ne sont pas des ouvriers d'usine, qui sont des ouvriers indépendants, qui ensuite, c'est toute l'histoire des canuts, vendent leur travail à des marchands. Et l'histoire, la révolte des canuts, c'est parce que tout d'un coup, les tarifs, à un moment donné, baissent sous l'autorité du préfet local, qui fait baisser les prix et se retrouve dans une situation difficile. Et donc, ces gens-là, qui essayent de voir comment ils peuvent s'entraider, vont créer les premières mutuelles et le premier congrès du mutualisme en France, qui s'étend évidemment à l'échelle nationale, se tient à Lyon. Puis le troisième penseur, à mon avis intéressant pour la suite, n'ayez pas peur, on viendra à des choses plus concrètes après, c'est quelqu'un qui s'appelle Proudhon. Et Proudhon a une pensée extrêmement intéressante pour moi, parce que Proudhon, c'est quelqu'un qui essaye de penser la dichotomie entre les notions de liberté et d'égalité. Voyez, pour ceux qui connaissent un peu la philosophie, Marx, c'est quelqu'un qui s'inspire de Hegel. Hegel a créé ce qu'on appelle la dialectique, c'est-à-dire thèse, antithèse, synthèse, et appliqué à l'histoire, et ben voilà, il y a d'une part le régime féodal, le régime capitaliste, on va faire un basculement révolutionnaire, puis après, il y aura un État merveilleux qui sera le moment communiste de l'humanité, et donc c'est la fin de l'histoire. Et Proudhon dit, il n'y a jamais de fin de l'histoire, parce qu'il y a toujours une contradiction dans le monde, et les contradictions qui, justement, font avancer le monde. En particulier, dans une espèce de contradiction fertile entre la liberté et l'égalité. Proudhon dit, si vous faites pencher le fléau de la balance trop du côté de la liberté, vous tuez l'égalité. Et donc, par exemple, on peut le voir que un certain débridement actuel de l'économie fait que tout d'un coup, bah, la liberté tue un peu l'égalité. Mais si vous faites pencher le fléau de la balance de l'autre côté, vers l'égalité, l'égalitarisme, eh ben vous tuez la liberté. Et donc c'est toujours dans une espèce de tension féconde que vous faites avancer la société. Et donc il n'y a jamais de fin de l'histoire, parce que tout le monde a voulu à un moment donné, évidemment, moi je pourrais dire... ben voilà, Gérard Collomb à municipalité de Lyon, c'est la fin de l'histoire. Ben non, il y a des contradictions, la société continue à avancer, et c'est vrai de toutes les sociétés. Donc voilà un peu ce qui alimente ma pensée. Alors je vous disais, aujourd'hui, pensée trop hexagonale. Si on sortait un peu de nos frontières, on verrait que le monde est en train de beaucoup changer. Et on verrait... ce que l'on peut faire à l'intérieur des frontières hexagonales et ce que l'on ne peut pas faire. Ce qui a changé dans le monde, c'est d'abord des révolutions technologiques qui font qu'évidemment, on change beaucoup. La révolution des NTIC a évidemment fait basculer le monde. Celle aujourd'hui des green tech et des clean tech est en train de faire la même chose pour les 20 ou les 30 prochaines années. Mais en France, on a, et en Europe de manière plus large, on a très largement laissé passer ces révolutions. On voit bien, par exemple, que sur la révolution des NTIC, eh bien, c'est très largement aux États-Unis que cela s'est fait, ce qui a donné à ce pays une longueur d'avance pendant très longtemps. Et aujourd'hui, avec les clean tech et les green tech, même s'ils connaissent un petit moment de mou actuellement, je suis persuadé qu'ils sont en train de remettre en place les conditions d'une reprise d'hégémonie pour les années qui viennent. Donc, on verrait que des pays comme les États-Unis ont une recherche qui est 2-3 fois plus active que les nôtres. On verrait que du côté des pays émergents, du côté de la Chine, par exemple, les choses bougent à toute allure. On verrait, par exemple, que, vous savez, très longtemps, on a dit, voilà, la Chine, c'est au départ... le pays qui va être sur les produits à bas coût salariaux, c'est-à-dire leur économie, elle est basée sur des coûts de main-d'œuvre très très bas. Et puis après, c'était plus ça simplement, c'est devenu l'usine du monde, c'est-à-dire qu'on assemblait les produits de grandes firmes européennes qui étaient installées là-bas. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les choses d'à peu près, ils sont en train de franchir un autre stade. Et ils deviennent extrêmement performants sur les problèmes d'innovation technologique. Et ils le font à la chinoise. C'est-à-dire que lorsqu'ils mettent le paquet, ils mettent le paquet. Et petit à petit, vous voyez, par exemple, sur des produits comme le photovoltaïque, produit dont on se dit c'est bien pour le développement durable, etc., etc. Et en France, nous, on produit des normes. Eux, ils font une filière industrielle. Et quand aujourd'hui en France... vous voulez acheter du photovoltaïque, vous apercevez qu'il y a deux types de produits, chinois ou japonais, mais que nous, on n'a rien. C'est pas bon en termes de bilan économique, c'est évidemment pas bon en termes de bilan écologique, parce que si vous importez du photovoltaïque qui arrive de l'autre côté du monde, peut-être que vous économisez quand il est sur votre toit, mais pour le faire venir, et en plus il a été produit dans des pays qui ont des industries très, en tout cas pour la Chine, des industries très carbonées, et donc, évidemment, c'est pas tout à fait bon. Donc, Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, si on n'y fait pas attention, on est en train d'assister à un basculement du monde et que, on va dire, l'équilibre du monde est en train de se faire quelque part plutôt entre les États-Unis et l'Asie qu'entre les États-Unis et l'Europe. Et l'Europe est en train de se faire marginaliser. Alors pourquoi l'Europe se fait-elle marginaliser? J'ai tout un grand chapitre de mon livre consacré à l'Europe. Ben, tout simplement parce que depuis 10 ans, nous avons reculé sur la volonté européenne et sur la construction européenne. Et qu'en fait, nous vivons, sauf dans les moments de coup dur, comme ceux de la crise financière, nous vivons en fait sur une succession d'États-nations qui de temps en temps coopèrent et de temps en temps pas, qui essayent en fait, non pas de coopérer, mais de faire de la concurrence aux voisins. C'est-à-dire que nous nous concurrençons entre nous. Par exemple, si vous allez sur des domaines plus pointus, vous apercevriez que l'attaque des marchés sur un certain nombre de monnaies, elle ne se fait pas par des gens qui viendraient des États-Unis, du Japon, de la Chine, etc. Elle se fait entre nous, sur nos propres marchés financiers. Et donc, faute d'avoir des stratégies coopératives, on est en train de perdre un certain nombre d'atouts. Alors, un exemple simple sur ce qui est le moteur de l'économie de demain, l'innovation technologique. On consacre, nous, 1,5%, hein, à peu près 1,7%, donc à la recherche en France, puis grosso modo dans les autres pays européens. Nos amis japonais, qui aujourd'hui souffrent beaucoup, j'ai une pensée pour eux, c'est un pays qu'on connaît bien, ils y consacrent 3%. Et si vous voulez, nous, c'est sur des budgets tout petits qu'on consacre 1,7%, chacun dans le cadre de l'État-nation. Ce qui fait que quand vous regardez plus en pourcentage, mais on va dire en somme globale, les sommes qui sont consacrées à la recherche aux États-Unis, et puis dans chacun de nos pays européens, bah évidemment, c'est ridicule ce que l'on consacre dans chaque pays. Et donc, il faudrait des politiques globales au niveau européen sur l'innovation, sur la recherche, construire en même temps des champions industriels qui soient des champions européens, parce que ce qui se passe est extrêmement inquiétant aujourd'hui. Comme on n'a pas voulu au niveau européen aller vers des champions industriels européens et que chaque État a voulu avoir son champion national, évidemment le marché national, il était trop petit pour ces grandes entreprises. Ces grandes entreprises, du coup, elles se sont développées dans le monde entier. Et pour discuter avec un certain nombre de grands dirigeants de ces entreprises, ils disent « Attention, nous, on est la dernière génération à être attachée de manière, on va dire, patriotique au fait que l'on maintienne en France le lieu du quartier général » de notre entreprise. Mais demain, après-demain, ça peut partir ailleurs. Déjà, les marchés sont ailleurs. C'est plus en Europe hein, que les marchés croissent. Ils croissent en Amérique latine, ils croissent en Asie, etc. Et donc, il n'y a déjà pas les marchés. Ensuite, si l'innovation technologique, elle part de l'Europe, eh ben voilà, on est un petit peu mort. Et donc, quand aujourd'hui, on regarde ce qui se passe en France, on voit qu'on est très mauvais par rapport à l'Allemagne, mais que globalement, l'Europe est très mauvaise par rapport à tous les autres pays. Évidemment, ça, c'est fondamental, parce que nous nous flattons tous de notre modèle de protection sociale, de protection culturelle, etc., etc. Mais ce modèle, il est très largement lié à notre capacité de développement économique. Il est clair que si demain, on se fait marginaliser de l'économie mondiale, la capacité à soutenir notre modèle de protection sociale, notre niveau de salaire, notre niveau de retraite, ça va quand même être extrêmement réduit. Donc, c'est là-dessus que je veux attirer l'esprit, en tout cas, essayer d'introduire un débat politique sur ces points qui me semblent importants. Je vous disais que l'État-nation, a perdu de son pouvoir vers le haut, et donc il faudrait aller du côté de l'Europe. Mais il l'a perdu aussi par le bas, du côté des grandes villes et des grandes agglomérations. Une grande sociologue américaine qui s'appelle Saskia Sassen a écrit beaucoup de livres sur l'économie monde et en particulier sur les villes. Et elle dit que les flux, qu'ils soient les flux commerciaux, intellectuels, culturels, ça se fait pas entre les États, ça se fait en fait entre les grandes villes dans toutes les régions du monde. Et que si tout d'un coup vous devenez marginalisé par rapport à ces flux-là, alors tout d'un coup vous êtes un petit peu oublié du développement du monde et vous devenez des oubliés de l'histoire. Et aujourd'hui, notre gouvernement, qui non seulement est hexagonal, mais qui est très jacobin, pense, lui, que c'est comme encore sous Napoléon, quoi. C'est-à-dire, on décide à Paris, et puis ensuite, ils exécutent dans le bas. Et ça ne se fait pas comme ça. Aujourd'hui, l'innovation, qu'elle soit économique, intellectuelle, culturelle, eh ben, elle est aussi dans les grandes agglos. Et je vois Dominique Hervieux, qui est là, donc nouvelle directrice de la maison de la danse. Ben voilà, c'est un bon exemple qu'on a quand même accompli un tournant. Elle était au Palais de Chaillot. Et donc, elle est venue prendre la direction de la maison de la danse à Lyon. Il y a encore 20 ans, on montait à Paris pour terminer au niveau culturel parce que c'était le sommet de la carrière. Aujourd'hui, c'est un peu différent quand on regarde les grandes villes européennes. On voit qu'un certain nombre de villes européennes rayonnent, que c'est Barcelone, c'est pour d'autres raisons Berlin qui est capitale, mais pour d'autres raisons du fait qu'elle soit capitale. Et qu'il y a comme ça une série de villes qui rayonnent un peu partout dans le monde. Tout à l'heure, je viens de discuter de la prochaine Biennale d'art contemporain. Et bien, la prochaine Biennale d'art contemporain, elle est organisée par un commissaire qui est d'origine argentine. Et donc, on voit bien que ce qui se fait, par exemple, dans le monde, elle travaillait avant au MoMA à New York, et donc on voit bien que c'est le MoMA, Lyon, Buenos Aires, le Japon, notre, par exemple, lorsque nous allons faire les rives de Saône avec des projets d'art plastique, notre commissaire, il travaille aujourd'hui à Shanghai. Donc on voit bien que, voilà, ça s'est ouvert et que c'est un peu partout que se font les liens intellectuels, culturels, que se fait le mouvement, avec évidemment ce côté positif, mais avec aussi des côtés négatifs. C'est-à-dire que ces grandes villes, elles attirent. Mais comme elles attirent, il y a des gens qui n'entrent pas dans la dynamique. Et donc, elles suscitent également de la pauvreté et de l'exclusion. Et donc, je parle beaucoup, dans mon livre en particulier, de la ghettoisation d'un certain nombre de quartiers, qui, à mon avis, est le problème principal aujourd'hui de notre pays. Quand on voit la façon dont évolue l'Île-de-France, on s'aperçoit que, quand même, on a de grosses difficultés. L'autre jour, je faisais une émission avec Thierry Ardisson. Il y avait une fille, c'était extrêmement... c'était formidable, son témoignage. Elle était médecin dans une banlieue parisienne, dans le 93, et elle disait, donc médecin de quartier, elle disait, moi j'adore ce quartier, j'en partirai jamais, les gens ils sont formidables, etc. Mais j'en suis à ma 17e agression, dont 3 fois on m'a mis un revolver sur la tempe. C'est-à-dire que quand même, la ghettoisation de nos quartiers, aujourd'hui, elle conduit quand même à des fractures dans la société qui sont extrêmement profondes. Et si on n'y fait pas attention, c'est l'équilibre de nos sociétés qui se trouvera remis en cause. Alors, par rapport à tous ces problèmes, j'essaye d'avoir une attitude réaliste. Et je me refuse d'être dans le toujours plus. Pour moi, être de gauche, ce n'est pas faire exactement la même chose, mais avec 15% en plus, quoi. C'est-à-dire... même chose, même structuration du travail, mais 15% en plus sur les salaires. Même chose sur les retraites, mais avec 15% en plus sur les retraites. Même chose sur tout ce que vous voulez, mais avec 15%. Non, ça ne se passe pas comme ça, parce que si on est dans cette dynamique-là, on ne va pas très loin. Alors je prends un problème que j'analyse un peu, celui qui a fait couler beaucoup d'encre, le problème des retraites. Et je dis, d'abord, le régime actuel, si on le regarde, est-ce qu'il est si juste que ça? Et je regarde par exemple un peu mes fonctionnaires territoriaux que je connais bien. Et je vois que dans la retraite de mes fonctionnaires territoriaux, vous savez, c'est sur les dernières années que se calcule la retraite en France. Et donc, je regarde mes cadres. Ils ont une évolution de leur carrière qui est fantastique. Et ils arrivent avec des salaires en fin de carrière qui sont relativement élevés. Et donc, ils partent avec une bonne retraite. Mais l'ouvrier de base là, qui travaille dans ma collectivité territoriale, lui, il n'a jamais bougé pratiquement. Ou s'il a bougé, c'est, allez, fait une demi-fois ce qu'il faisait au début, à peine plus. Et donc, il se retrouve, du coup, avec une retraite qui est une retraite misérable. Et aujourd'hui, on va avoir des tas de gens qui vont partir avec des retraites misérables. Alors, je dis, plutôt que de s'arc-bouter sur, on défend les acquis du passé, comme on dit quelquefois à gauche, on essaye de regarder autour de nous, s'il n'y a pas des endroits où on a changé le système. Et par exemple, on l'a fait en Suède. Alors en Suède, c'est un régime, vous avez tous peut-être des complémentaires, vous avez un système par points. Donc chaque année, vous acquérez des points. Ça vous donne déjà un premier acquis, c'est que vous savez où vous en êtes exactement dans l'acquisition de vos points. Parce que pour les plus jeunes d'entre vous, vous le verrez, le système français, c'est un délice quand on veut faire ce qu'on appelle des reconstitutions de carrière. Si vous êtes allé dans plusieurs endroits, fait plusieurs métiers, que vous avez eu plusieurs statuts, alors je peux vous dire, c'est la croix et la bannière pour arriver à reconstituer les choses pour votre départ en retraite. Là-bas, avec le système de points, vous recevez chaque année, vous avez votre nombre de points, ils s'ajoutent d'année en année, etc., etc. Et ce qui fait qu'en général, les gens qui sont dans les couches les plus sociales de la société sont en général toujours ceux qui ont fait le plus de temps. Et donc, ils ont accumulé pas mal de points supplémentaires par rapport, par exemple, au régime français où on regarde que la dernière année et on regarde ce qu'on gagne dans la dernière année, peu importe si vous avez fait, etc., etc. Donc, on pourrait changer le système, prendre le système de points, ce qui permet de résoudre un des problèmes fondamentaux qui est l'évolution démographique et l'allongement de la durée de la vie. Et bien eux, ils ont un système où quand vous êtes sur le point de prendre votre retraite, que vous connaissez vos points, vous connaissez en même temps un coefficient de durée de vie. C'est-à-dire qu'on vous dit, dans la génération temps, l'espérance de vie, elle est de tant d'années. Et donc à partir de là, vous avez votre coefficient multiplicateur qui est celui de votre génération. Et même, ils ont raffiné un peu le système pour faire en sorte que ça soit un système qui soit adapté au milieu social. Parce qu'évidemment, si vous êtes ouvrier du bâtiment, vous n'avez pas la même durée de vie moyenne, statistique, que si vous êtes prof d'université, par exemple. Or que l'université devient difficile, mais quand même. Donc, vous n'avez pas la même durée de vie. Et donc, ça permet à la fois une souplesse économiquement et socialement d'avoir quelque chose de cohérent qui tienne la route, puis en même temps d'avoir aussi la liberté vous-même à un moment donné de dire en fonction de votre état de santé à quel âge je voulais exactement partir. Il n'y a pas cette espèce de point qui devient le point absolu sur lequel on s'empaille de la retraite à temps ou la retraite à temps. C'est effectivement beaucoup plus évolutionniste. Et donc, je prends quelques exemples divers comme cela pour montrer ce que l'on pourrait faire. Enfin, dernier point. Je dis une chose. En 2012, ça va être très difficile. Qui que ce soit qui arrive au pouvoir. Pourquoi? Parce que, on ne le sait peut-être pas, on le saurait mieux, on le regarderait mieux si justement on regardait un peu de l'extérieur. On a accumulé un niveau de dette qui est absolument abyssal. Et on n'est pas loin, maintenant tout le monde connaît un peu, on va dire, Ben, ce qui s'est passé en Grèce, hein. Grosso modo, on vit à crédit pendant des années, puis à un moment donné, pof, il y a le banquier qui vous rappelle à l'ordre. Ben, on n'en est pas très loin. Et donc, un jour, on risque de se faire rappeler à l'ordre. Ce qui fait qu'en 2012, il va falloir quand même gérer un tout petit peu serré. Et donc, ça veut dire, par exemple, pour moi, du côté de la gauche, elle veut aspirer à gouverner ce pays avec quelques crédibilités et quelques pertinences, il faut pas dire tout est prioritaire. Une mesure pour les jeunes, une mesure pour les moyens, une mesure pour les vieux, une mesure pour ceux-là, etc., etc. Non, il faut serrer. Il faut dire, si on veut être crédible, ce qu'on veut faire. Pour moi, il y a deux mesures, une mesure de type économique et social et une mesure de type social. La première mesure du type économique, c'est ce que je vous ai dit, priorité à l'innovation, à la recherche et à la compétitivité de nos entreprises. Parce que si on se désindustrialise dans les prochaines années, comme on a commencé à le faire, on sera très très mal. On ne fonde pas une économie sur le tourisme. Et encore, comme dirait mon ami Delbar, maire de Dunkerque, il me dit, toi, Lyon, fonder une économie sur le tourisme, ça peut encore aller, mais moi, à Dunkerque, ça va être plus dur, quoi. Donc, il faut penser effectivement à ce type de réalité. Donc, priorité dans l'économique à l'innovation et priorité au social à la déghettoisation. Je veux dire que le problème de l'Île-de-France est devenu un drame. Sur l'agglomération lyonnaise, si vous regardez ce qu'on a essayé de faire, je crois que ce qu'on commence à réussir. On a commencé à totalement déghettoiser un certain nombre de quartiers de l'agglomération lyonnaise. C'est par exemple la Duchère qu'on est en train de transformer. C'est par exemple Mermoz, où on est en train, vous verrez, dans 2, 3 ans encore, d'en faire un quartier qui va revivre et s'épanouir. C'est aller un de ces jours, je ne sais pas si vous y allez tous les jours, mais allez vous balader du côté de Vaux-en-Velin maintenant. Et vous verrez comment Vaux-en-Velin est en train de se transformer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait simplement beaucoup de logements sociaux à l'intérieur de la ville-centre, enfin ville urbaine et Lyon, par petits programmes, un peu partout. À la Confluence, par exemple, quartier emblématique, il y a 25% de logements sociaux. Donc, on a remis des logements sociaux dans la ville-centre et dans la banlieue résidentielle ouest. Et par contre, on a fait des opérations de rénovation urbaine très accélérées sur des communes comme Vaux-en-Velin, en essayant de reconstruire de l'accession à propriété, etc., etc., pour faire revenir des couches moyennes. Et c'est comme ça que l'on rebat les cartes d'une société. Parce que, comprenez bien que si vous êtes dans un quartier ghettoisé, l'égalité, elle devient quelque chose de purement illusoire. Quand vous êtes môme et que vous êtes dès l'âge de 3 ans, vous, d'origine immigrée, avec tous vos petits copains d'origine immigrée et avec des parents qui parlent à peine le français, vos chances quand même dès le départ de réussir dans la vie sont un peu moins grandes que si vous êtes dans une école du 6e arrondissement. Donc c'est là qu'il faut faire porter le point parce que c'est là que naissent effectivement les inégalités. Et donc pour moi, si on veut mener des politiques qui permettent de changer les choses, c'est la priorité à accorder à ce type de politique. Évidemment, ça coûte relativement cher, hein. Nous, par exemple, le budget du logement social dans une ville, enfin dans une agglo comme Lyon, il était d'à peu près 10 millions d'euros. On est passé à 100 millions d'euros. Donc on l'a multiplié par 10. Mais ça veut dire qu'on fait les vrais choix. Et à un moment donné, qu'on affiche des vraies priorités, à mon avis, il faut faire la même chose au niveau national et se donner comme ça quelques grandes priorités sur lesquelles on met l'accent et qui permettent de faire changer le pays. Voilà, je ne veux pas être plus long parce que je veux pouvoir discuter un peu avec vous. Donc, vous pouvez poser les questions. C'était juste, j'espère que je vous ai donné au moins envie de lire quelques pages du livre. Voilà, après vous pouvez l'acheter, 19 euros. J'ai passé quand même 1 an et demi, on touche 8%. C'est pas beaucoup, hein. Mais bon, je me plains pas, ça a l'air de marcher. Vous savez, tout à l'heure, on parlait de la difficulté du livre politique. Lorsque j'ai signé avec Plomb, je leur dis, vous pensez que je vais en vendre combien? Ils disent, oh, ça dépend, vous savez, un livre politique, ça se vend entre 2000, 3000, c'est déjà pas mal, 5000, c'est magnifique. Je dis, ah bon? Ils me disent, ouais, Jean-Pierre Raffarin, lorsqu'il était Premier ministre, il en avait vendu 850. Ah, j'ai dit, bon, ok, c'est pas avec ça que je ferai fortune.